Salut Rudy, salut Superphysique.
Salut Fabrice et salut Superphysique. Bienvenue à tous.
Donc bienvenue pour ce sixième podcast. Donc avec beaucoup de questions essentiellement sur l'entraînement. Donc, je vais attaquer direct les questions, vu que la dernière fois on avait critiqué la discrétion, certaines personnes avaient critiqué la discrétion que j'avais fait, donc j'attaque direct les questions. Donc il y a Jumpoff qui demande, qui dit qu'il a bien lu le programme Supertech, mais il est déçu parce qu'il dit que tu ne parles pas de l'intérieur des pecs dans ce programme. Alors je vais essayer de répondre pour toi.
Mais je crois que j'en parle en plus, attends, t'es sûr que j'en parle pas? Je crois que j'ai mis justement un truc à la fin du programme. Peut-être que j'ai mauvaise mémoire, mais il me semble que j'ai dit que justement on pouvait pas l'isoler.
Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de partie, de rubrique, enfin de chapitre spécial pour l'intérieur des pecs, parce qu'on peut rien y faire. Ok, deuxième question. Donc la première était facile. Donc la deuxième question, c'est Skydark. Donc lui, il dit qu'il s'entraîne en faisant 4 séries de 10 essentiellement sur la majorité des exercices. Et il voulait savoir quand c'est qu'il pouvait tenter un maxi.
Ben, si le but c'est de prendre du muscle, je te dirais que faire un maxi ça sert à rien. En fait, je suis souvent étonné parce que les gens veulent faire des maxis, en fait, connaître leurs limites. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent aussi, mais en fait, je vois pas l'intérêt de faire un maxi. Surtout que quand tu fais un maxi, en fait, tu le sais aussi bien que moi, on a tendance à dégrader la technique, à risquer la blessure. Je vois pas l'intérêt, en fait, à moins de faire de la force athlétique où c'est le but. Même en préparation physique, ils ne font même plus de maxi, quoi. Ils font des estimations à partir du 5 RM ou du 3 RM, mais jamais de vrai maxi, quoi.
Ouais, mais je pense que c'est juste pour pouvoir répondre à la question combien tu prends en développé couché, parce que c'est sûr que si tu dis je fais 4 séries de 10 à 80 plutôt que je fais une fois 110, c'est pas pareil.
Donc la question c'est quand faire un maxi. Jamais. Et si tu veux vraiment savoir ton maxi, il suffit de le faire à n'importe quelle séance, quoi. Il suffit que tu t'échauffes, comme j'indique dans l'article échauffement sur le site. Donc monter tout doucement en pyramidal sans faire trop de répétitions. Et donc, tester ton maxi, mais bon, encore une fois, je ne te le conseille pas.
Ouais, bah moi non plus, parce qu'en plus, tu seras probablement déçu, parce que si tu fais 4 séries de 10, c'est pas dit que tu fasses un bon maxi, parce qu'à mon avis, tu seras pas bien habitué sur les séries courtes, donc ouais, t'as tout à y perdre. Hein.
Tu seras surpris nerveusement par la charge.
Voilà, tu seras déçu, tu risques de te blesser, tu niques une séance, tu niques ta progression.
Bon, on arrête Fabrice. Justement, petit aparté, j'ai retrouvé dans l'article Super Pectoro l'endroit où je parle de l'intérieur des pecs et où je dis qu'on peut rien faire. Donc c'est dans la partie conclusion de l'article et il y a 6 lignes.
Bon, ok, donc Jump Off, tu reliras l'article.
Voilà,
c'est vraiment la conclusion.
C'est à la fin de l'article. En conclusion, parce que je me disais bien que j'avais écrit un truc dessus.
Ok, ouais. Alors, Skydark donc, a aussi une deuxième question, donc il s'entraîne 4 jours par semaine, donc je pense qu'il a une routine divisée, puis il doit faire un ou deux muscles par séance, et il dit, voilà, des fois je manque une séance, donc qu'est-ce que je dois faire? Parce que soit je continue comme d'habitude, et dans ce cas-là, ça veut dire que pour le groupe musculaire dont j'ai manqué la séance, il y aura 14 jours de repos à la place de 7, ou soit sinon j'essaye de caser quelques exos manqués dans la séance d'après, ou il sait pas trop ce qu'il doit faire.
Il n'y a pas vraiment de meilleure solution à partir du moment, si c'est régulièrement qu'il saute à 4e séance, je dirais pas sur 3 séances pour être sûr de tout faire, quitte à en faire un peu moins pour chaque muscle. Après, j'ai souvent le cas, quand il faut sauter une séance, que les gens sautent les cuisses, je ne sais pas pourquoi, mais non, si tu sautes une séance, si c'est une fois, c'est rien. Si c'est régulièrement, pas sur 3 séances par semaine. Si vraiment une fois de temps en temps, une fois par mois, bon, c'est pas grave, hein, tu vois. À part, comme je dis dans l'article que j'ai fait récemment, prenez du muscle en vous reposant. Si tant que c'est pas sur les développés, normalement tu perds pas grand chose en une semaine. Donc, surtout que t'as entraîné les autres muscles qui vont normalement servir aussi à cet entraînement-là. Donc, à toi de voir si c'est régulier ou pas.
Ok, alors après, il y a Julien qui a posté une étude sur le forum SP, et donc la conclusion de l'étude, c'était que plus ou moins pour se rapprocher de l'échec musculaire, il fallait s'entraîner plus léger, entre guillemets, et qu'en prenant des charges plus lourdes, c'était plus la limite, c'était plus au niveau du système nerveux que, je sais pas comment dire, au niveau de la volonté et de l'épuisement musculaire. Alors, en passant, moi, j'ai regardé l'étude, et l'étude concernait une contraction isométrique au leg extension. Hein. Donc, je sais pas si on peut généraliser l'étude comme l'a fait Julien, mais c'était donc assez spécifique. Néanmoins, donc, il y a Archimède, Nico 14, Kevin, Xtreme et d'autres qui ont encore beaucoup de confusion sur le nombre de répétitions par série. Donc, notamment, toi, à un moment donné, tu avais dit qu'une série normale, pour toi, c'était 20 répétitions. Donc du coup, les gens, ils se demandent s'il faut faire 20 répétitions par muscle. En même temps, des fois, on a dit qu'il y avait des muscles qui réagissaient mieux aux séries courtes et d'autres mieux aux séries longues. Donc du coup, ça, d'un côté, on dit qu'il faut peut-être faire 20 reps. Après, on dit qu'il faut peut-être varier par par muscle. En plus, les gens, ils se disent, si jamais je fais 20 reps, est-ce que je dois faire 4 séries ou est-ce que je dois en faire que 2 est-ce que je dois faire... Eh bien fou, hein. Est-ce que je dois faire 20 reps sur chaque exercice ou alors que... Parce qu'ils ont vu que des fois, pour le développé couché, tu faisais des séries plus courtes. Donc ils disent, ah bah peut-être que des fois, faut pas faire 20 reps et des fois, faut faire 20 reps. Et après, il y a aussi, à un moment donné, t'avais dit que tu étais contre les cycles. Et puis en même temps, sur des vidéos, on doit faire 20 reps. Et puis un peu, quelques semaines plus tard, on doit poster une vidéo du même exo où tu fais 10 reps. Alors que t'as dit que t'étais contre les cycles. Donc du coup, les gens, ils sont encore plus confus.
D'un coup, là, Fabrice, laisse-moi répondre petit à petit.
Non, non, mais après, je te donnerai le plan pour que tu répondes. Il y a ça, et il y a aussi MDG qui disait que cycler, c'était de la merde, etc. Donc, du coup, les gens sont complètement confus. Donc, du coup, pour répondre, déjà, ce que je te propose, c'est de faire la réponse selon l'objectif. Donc, on va commencer, premier objectif sur la prise de force. Combien de répétitions faut faire? Et est-ce qu'il faut cycler? Et est-ce qu'il faut varier les répétitions selon le muscle considéré?
Ah non, mais si c'est la force, de toute façon, donc, si on se base sur un exemple de force athlétique, la plupart des athlètes donc s'entraînent suivant des cycles. Donc on en a mis plusieurs, par exemple le cycle de Marc Casabianca au développé couché, qui est un cycle donc de power, de force athlétique. Et donc on voit bien que c'est des séries très très courtes qu'on fait, donc ça dépasse pas 5 reps. Rien, on peut aller jusqu'à 6.
Bon, enfin donc, voilà, ouais,
on voit bien... De toute façon, on fait de la force, c'est pas, parce que j'ai aussi des questions comme ça, des fois que je reçois, des mecs qui font de la force, même sur des écartés couchés, sur des élévations latérales, des choses qui ne se font pas, en fait. Et c'est ce qu'il y a, par exemple, ce que disait Jean Texin, dans ses livres à l'époque, que ce qui avait bousillé Menzer, donc Menzer, qui est, on a un article là-dessus, qui est mort aussi, c'était l'inventeur du HD, donc Heavy Duty, et donc qui lui faisait de l'isolation très très lourde. Donc pour faire parler avec les gens qui veulent faire de la force sur l'isolation lourde, et donc c'était le mec qui à 40 ans était massacré de partout quoi. Avec les articulations bousillées. Donc le travail de force donc c'est réservé aux exercices de base. Donc tout simplement le coucher, le squat, le rowing, le soulevé de terre. Et non pas on fait pas de la force sur des élévations latérales ou des écartés couchés. Ça c'est la meilleure
place. En même temps, dans les programmes de prise de force, il y a très peu d'exos d'isolation parce que, genre, à la place de faire des extensions nuques pour les triceps, on va faire du développé couché serré. Enfin...
Voilà, ouais, mais après, toujours oublier que là, dans un programme de force, il y a des exercices où on veut progresser en force, et il y a ceux qui servent à aider à ne pas se blesser, l'assistance, ce qu'on appelle l'assistance. Et qui sont faits beaucoup plus légers, et non pas dans le but de prendre directement de la force, de l'indirect. Ça, c'est important de le dire, parce que c'est vrai que, à chaque fois, ça, c'est une question qui revient souvent, ça. Des mecs, ils m'envoient leur forme, on fait de la force, série 6 aux écartés. Là, si tu survis longtemps, c'est un miracle, hein. C'est un miracle, donc, voilà la réponse, Fabrice. C'est clair?
Oui, donc en même temps, le cycle de Marc Casabianca, c'est un cycle ondulatoire avec des séries de 5-4-3 reps. Mais bon, des fois, il y a aussi des cycles de powerlifting où on commence à 10 reps et où on va jusqu'au maxi. Et donc là, l'idée du cycle, c'est aussi un peu de reposer les articulations quand on va faire des séries de 10 reps ou de 8 reps. Mais le corps du cycle reste sur du 5 ou 4 reps aux alentours de 80 et 85% du 1 RM.
Voilà, les séries du 8-10 sur un cycle de force, c'est de la récupération et pour permettre en général de progresser au niveau musculaire pour ensuite pouvoir supporter les charges plus lourdes. Quoi. C'est une période transitoire en fait, c'est pas vraiment le travail
Exactement. Et de la même façon, en fait, quand on va faire des triplés ou des doublés en fin de cycle, et ben c'est pour préparer les articulations, etc., au maxi, quoi. Mais le gain de force, il se fait essentiellement quand on travaille autour de 5 reps, quoi.
Ouais, et puis après, faut distinguer si on est à court terme ou à long terme. Si on prend un programme de la semaine de force, c'est des séries très très courtes, quoi.
Ok, donc ça c'était la première partie de la question. Alors maintenant, on va prendre si c'est l'objectif prise de muscle. Combien de répétitions faut faire et est-ce qu'il faut faire le même nombre de répétitions quel que soit l'exercice et quel que soit le muscle considéré?
J'aime bien les questions. Alors déjà, le préambule à cette réponse se trouve dans l'article « Combien de répétitions faut-il faire pour prendre des muscles ?» dont la vidéo n'est pas très claire et dont je vais la refaire prochainement. Donc, si je reprends la partie sur les cycles tout à l'heure dont on a parlé, je déconseille l'utilisation de cycles comme en préparation physique, c'est-à-dire de force, de volume, de puissance, de n'importe quoi, quoi. Ça ne sert à rien si votre objectif est de faire du muscle. Par contre, comme on veut faire du muscle, le but étant de faire des cycles, avec toujours l'objectif, toujours avec, en s'inspirant en fait des powerlifters, avec des périodes faciles et des périodes dures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être tout le temps à fond. Je peux pas faire tout le temps. Je vais prendre l'exemple de mon curl incliné là, que j'avais mis en vidéo à 20 à 27,5, et quelques semaines après j'étais en série de 15 à 25, je crois. Donc sur la série de 20 à 27,5, il y avait plusieurs choses. Il y avait un, c'était une fin de progression, donc une fin de cycle de progression. Et deuxièmement, je trichais. Même si on le voit pas, je tends pas complètement, je ne monte pas à fond et je donne un peu d'élan.
Si on voit que tu triches, hein, y en a un qui fait la remarque justement, il demande si on est obligé de tricher pour progresser.
Donc quand je suis passé en dessous à 15 à 25, là j'étais pour moi très strict. C'est-à-dire que je tendais bien en bas pratiquement, je remontais qu'à la force du bras, il n'y avait pas du tout d'élan. Voilà, donc en fait sur un fin de cycle, donc après on parlera de la triche, mais en gros je trichais pour pouvoir mettre plus lourd, pour pouvoir reprendre ensuite des charges plus lourdes qu'au début du cycle. Donc là, si vous voulez prendre du muscle, le but c'est de cycler dans le bon rep range. C'est-à-dire de. On sait en gros que pour faire du muscle, c'est entre 10 et 20. Entre 10 et 20, et 8 sur certains exercices. Donc, comme d'habitude, les exercices de base se prêtent plus à des séries plus courtes, donc 8-12, ce qu'on sait déjà. Donc on prend par exemple développé couché. Si je fais des séries longues, en général je vais être limité par le triceps ou par les épaules au lieu de par les pecs. Ou si je fais des tractions en série longue, ça va être mes avant-bras qui vont trop congestionner, mes biceps, et non pas mon dos. Ou pareil, si je fais des séries longues au squat, bon bah c'est mon souffle qui va être le point faible et non plus mes cuisses. Donc sur l'exercice de base, je fais des cycles, je vais pas monter jusqu'à 20 répétitions, quoi. Je vais pas monter jusqu'à 20 répétitions, à moins que vous soyez vraiment très fort et que vous fassiez des séries de 20 à 100 au coucher, ou des séries de 20 à 120 ou 130 au squat. Donc voilà. Et après, donc pour tous les autres exercices, ceux qui ne se prêtent pas à un travail lourd, là, le cycle, vous pouvez aller jusqu'à 20. Même plus. Par exemple, pour les épaules, c'est pas rare que je monte jusqu'à 50. Parce que, un, l'articulation est, je prends l'exemple d'élévation latérale, qui en plus, donc, les épaules sont une articulation fragile, j'ai pas envie de me blesser, elles sont déjà mis à rude épreuve par exercice de développé, exercice de dos et compagnie. Donc, rien ne m'empêche de progresser sur de la série longue là-dessus, parce que le travail lourd, un diac qui m'abîme est déjà présent. Donc en fait, tous ces exercices de base restent dans la moyenne de ce qu'on préconise, à moins d'être vraiment très fort. Et tout le reste, donc le cycle en fait, c'est par exemple je passe de 12 à 20 répétitions sur mon curl incliné, et quand j'y arrive, bah, je monte de charge, et je recommence avec une période facile, donc avec l'esprit powerlifter, je récupère, je m'applique, parce qu'à la fin du cycle, il y a de fortes chances que j'ai dégradé ma technique légèrement pour arriver au truc, à l'objectif. Donc après, je repasse à 12 et je m'applique, et au moment où je vais retricher, et voilà, et ainsi de suite. Et donc, on parle de la triche tout à l'heure. Ça te va, Fabrice?
Bah oui, j'espère. Alors, pour que ce soit bien clair, parce qu'en fait, effectivement, c'est le mot cycle que tu dis je cycle pas, puis juste après, tu dis je cycle, parce que du coup, il y a
des
différences. Il faut distinguer le cycle où on, avec différentes phases de rep range, comme on préconise dans certains crêpes là, de faire, même pour avec objectif hypertrophie, on préconise de faire un cycle puissance avec du 8 reps.
T'as des exemples? T'as des noms à donner?
Non, je donne pas de nom. Donc il y a un cycle puissance à 8 reps, un cycle vitesse, un cycle force, et ensuite on commence la phase hypertrophie. Donc c'est ça qu'on dit que
voilà, ça c'est
que tu ne préconises pas.
Voilà, non, ça c'est
l'objectif. Voilà, puisque l'objectif c'est l'hypertrophie, on n'a pas besoin de faire toutes ces phases. On fait directement la phase hypertrophie. Mais après, dans la phase hypertrophie entre guillemets, bah oui, on va cycler un petit peu l'intensité, c'est-à-dire que toutes les séances ne seront pas difficiles. Et c'est en ce sens-là qu'il y a un peu de notion de cycle, comme tu l'as dit.
Voilà.
Ok. Bon.
Donc pour reprendre, parce qu'on a, tu n'as pas commenté l'étude de Julien, je voulais la commenter rapidement. Donc ça reprend en fait ce que je disais dans mon article sur l'échec. Je sais plus, c'était faut-il forcer à chaque série. Je crois que c'était ça le titre exact. Et donc oui, plus la série est longue normalement, plus on est sur l'aspect musculaire que nerveux. Mais, encore une fois, faut voir les facteurs limitants. Donc, comme je viens de citer, par exemple, si je fais une série longue au développé couché, vraiment très longue, c'est mes triceps qui vont gonfler comme un ballon et qui vont me limiter. Si je fais une série très très longue au squat, c'est rare que je sois stoppé par mes cuisses, ça va plutôt être mon souffle, mon cœur, la sensation d'écrabouillement qui va me stopper. Par contre, sur un exercice d'isolation qui ne cible que le muscle que je veux travailler, là, il n'y a pas de limite. Tout en restant quand même, faut qu'il y ait une limite. Par exemple, si je fais des élévations latérales à 2 kg, je peux en faire indéfiniment, et ça, c'est de l'endurance. Mais si je fais des élévations latérales à 10 kg en série de 50, là, vous allez sentir que ça brûle, ça brûle, ça brûle, et vous allez être plus stoppé par cette notion de douleur, cette brûlure, que par le souffle ou le système nerveux qui dit que c'est trop lourd.
Voilà, et donc il y avait un autre aspect de la question que j'ai oublié. Donc tu as dit justement qu'il fallait varier les répétitions selon les exercices, en fonction de si c'est des exos de base ou des exos d'isolation, mais est-ce qu'il faudrait aussi les... Et on a vu aussi qu'il fallait les varier peut-être selon certains muscles, donc comme là par exemple pour le deltoïde externe et les élévations latérales. Mais est-ce aussi au niveau des individus, donc quelqu'un posait la question qui est hyper classique, est-ce que par exemple il y a des individus qui vont mieux réagir aux séries courtes pour un muscle donné et d'autres plus aux séries longues? Par exemple, est-ce que la composition musculaire fait que du coup il peut y avoir des changements dans le nombre de répétitions optimales pour prendre du muscle?
Je suis tenté de dire oui, mais en fait, comme il y a pas vraiment d'études sur le sujet, il y a pas de réponse claire. On voit empiriquement à la salle, tu vois bien que t'as un muscle qui réagit mieux quand tu fais des séries courtes, d'autres quand tu fais des séries longues, mais c'est empirique. Tu peux pas savoir, même malgré les tests qu'on trouve sur internet, des tests que je trouve un peu bidon.
Si, bah le test c'est de faire le maximum de reps à 80% du 1RM, et en gros si vous faites plus de 12 reps, ça veut dire que le muscle là il a plus de fibres lentes, donc il réagira mieux à beaucoup de répétitions. Et si vous faites moins de 5 reps, ça veut dire que dans ce cas-là vous avez un muscle.
Ça c'est pas, tu vois, par exemple si je prends l'exemple du coucher, c'est ça s'applique pas ce truc-là, parce que par exemple le mec qui a pas de pec, son point faible ça va être le bas du mouvement. Et donc ça veut dire que sur un maxi en fait, il va avoir vraiment beaucoup de mal à faire un max, mais par contre comme ça va être plus léger, quand ça va être plus léger, il va faire beaucoup plus de reps, le mec qui a ses triceps qui vont tenir. Je vois par exemple Karim à la salle, qui a vraiment du mal, par exemple, donc Karim de la team bronze, qui a vraiment du mal à décoller ses barres d'en bas, et sur une série longue, il s'arrête pas quoi, il en fait pratiquement 20 à 100, mais s'il passe 140 en maxi, c'est un miracle quoi. Donc tu vois, c'est pas vraiment appliqué parce que, c'est pas le bon muscle qui est travaillé en fait sur un mouvement de base quand t'es pas fait pour quoi. Comme toi par exemple, toi tu te souviens au coucher, je me souviens t'étais pas fort en maxi, mais parce que en bas t'avais pas le pec qui décollait quoi, t'avais les épaules et tout. Je sais pas si tu peux confirmer Fabrice que tu faisais plus de reps que t'étais pas en maxi. Mais donc toi après par exemple au squat ça s'applique plus, mais il y a des mouvements suivant la morphologie ça s'applique moins quoi. Au coucher tu peux pas dire tu fais 10 à 4, faut voir le mouvement du mec, comment il est.
Ouais, non, la règle là, ça marche pas pour les exos de base, ça va plus marcher pour les exos d'isolation par, ou pour le biceps. Voilà, il y a peut-être des gens qui
voilà.
Peuvent réagir sur un curl incliné en faisant du 20 reps et d'autres en faisant du 6 reps, mais bon.
Voilà, mais après c'est empirique, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus, et c'est donc trouver quelqu'un qui va vouloir faire ouvrir pour voir ce qu'il a à l'intérieur, et puis faire un test, et puis il ne faudrait pas une seule personne, il faudrait des centaines, des milliers. Pour donner une vraie règle, donc c'est dur de dire, c'est que de l'empirisme quoi, c'est que du test, voir ce que ça donne quoi, sur et pas sur 2 semaines, hein. sur des mois et des mois d'entraînement.
Ok, allez, passons à la question suivante. Donc j'espère que dans le prochain podcast, on va pas nous reposer une question sur les répétitions, parce qu'on devient fou là avec les répétitions.
Donc je vais refaire la vidéo de combien faut-il faire de répétitions pour prendre du muscle. Parce qu'elle était pas du tout claire, même moi je me comprends plus. Donc je vais la refaire bientôt, avec nos nouveaux t-shirts super physiques, on en profite pour faire un peu plus, qui sont en vente depuis lundi.
Ok, allez, on attend la prochaine vidéo. Donc, Guillaume71, il pose une question, et a pas de chance, encore une question sur les répétitions. Alors il dit, je fais 10 à 80 kg au développé couché, et si mon objectif c'est 30 reps à 80 kg au couché, est-ce que ça vaut le coup que je fasse du développé couché à 80 kg ad vitam aeternam, ou alors est-ce qu'il faut que j'essaye de travailler à 90, etc., pour augmenter à 80?
Ah, mais moi je trouve que c'est une bonne question, parce que c'était une question qui se pose. Si le but c'est de faire 30 à 80, là le mec, de toute façon, t'es avec Guillaume, faut que tu progresses en force, de toute façon. Parce que 30 à 80, faut voir, faudrait que je vois ton mouvement, pareil, comme je disais tout à l'heure, si c'est un problème de décollage en bas, ou si c'est pas fort en triceps, ça change un peu la donne, mais là, de toute façon, faut que tu montes un 30 à 80, faut que tu passes au moins 10 à 100, voire 10 à 110, voire si c'est pas plus, hein, suivant ton mouvement. Tu vois, moi, je donne mon exemple, pour que je fasse 30 à 80, il fallait que je fasse, c'est simple, ça fait quoi, 10, 14, 14, 22, voilà, il fallait que je fasse 10 à 120 pour 30 à 80. Parce que j'étais pas fort en triceps, j'étais fort en pec, donc ça allait pas. Alors, toi, si c'est l'inverse, par exemple, tu vois, Karine, quand fait 30 à 80, il s'amuse. Mais par contre, 10 à 120, il fait pas, quoi. Donc, à voir, mais à mon avis, pour être sûr de passer 30 à 80, mieux vaut que tu progresses un peu en force. Après, de toute façon, à moins que, je sais pas pourquoi tu veux progresser à 80, Guillaume, donc si tu voudras répondre sur le forum.
Non, mais là, en fait, là, tu compliques la question, Rudy.
Ouais, mais j'ai pas compris pourquoi il veut faire 30 à 80.
Mais enfin, c'est moi qui ai posé la question comme ça, mais en gros, si tu préfères, je peux la poser autrement. C'est, est-ce que pour atteindre 50 tractions à la barre fixe au poids de corps, est-ce qu'il faut que je fasse des tractions au poids de corps tout le temps, ou alors est-ce que ça vaut le coup que je fasse des tractions lestées pour accélérer ma progression en poids de corps?
Bon, bah tu lestes alors, Fabrice.
Voilà.
Fabrice, tu lestes. Et quand on fera 50, tu nous feras une vidéo.
Moi, je fais pas de traction, mais c'était pour mieux comprendre la question de Guillaume.
Que je non, on en a vu, c'est ce qu'il a dit de Frédéric Delavigne. Okay.
Voilà,
parce qu'il y a le concours Paul Ordaille qu'on a organisé. Bah, justement, il progressait bien aux tractions en alternant justement le lourd et le haut poids de corps, quoi. Donc, ça confirme ce que nous venons de dire sur le sujet.
Oui, et on peut faire un peu le parallèle avec la course à pied, genre par exemple, moi je peux le dire, dans le temps par exemple je faisais du 5000 mètres, et ben si j'essaye de courir le plus rapidement possible sur le 5000 mètres tout le temps, et ben en fait ça progresse pas, à un moment donné ça bloque, et donc on sait qu'il faut faire
du fractionné,
voilà, du fractionné, et par contre quand tu fais du fractionné, effectivement tu vas progresser, tu progresses plus vite, et donc là ton truc à 80 kg au développé couché, à mon avis, si tu gardes la charge tout le temps à chaque séance, ben genre tu vas peut-être monter, donc là si tu fais des séries de 10, à un moment donné tu vas peut-être monter à 15 reps. Et après, ben quoi que tu fasses, ça va stagner à 15 reps et tu vas être bloqué. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser une charge un petit peu plus lourde. Alors après, une nouvelle question, donc là c'était, bon je sais même pas dire son pseudo, Beau2ZGO, qui dit que Frédéric Delavier et Michael Gundil, dans leur livre de musculation des bras, mettent en évidence que nous avons tous un déséquilibre entre les fléchisseurs et les extenseurs du poignet. Et il se demandait si juste de faire du travail en isométrie, donc en statique sur du curl inversé, pouvait être suffisant pour combler ce déséquilibre. Ou s'il fallait vraiment équilibrer les masses musculaires et donc avoir autant de muscles extenseurs du poignet que de muscles fléchisseurs du poignet.
Ouais, elle est marrante cette question, parce que en fait je me demande... Comment on peut... c'est raisonnement... En fait, c'est toujours mieux d'avoir un rapport de force équilibré par un autre de l'articulation. Donc là, des extensions du poignet et des fléchisseurs. Après, l'isométrie... je sais pas pourquoi je te pose la question, beau de géo. Mais l'isométrie, pour prendre du muscle et prendre de la force de manière générale, c'est pourri. Hein. on a bien vu que la plupart des études montrent que l'isométrie, même tu peux tester, tu ne prends de la force que dans
Dans les quelques degrés.
Par exemple, tu fais l'isométrie au squat à 90 degrés, bah tu vas prendre de la force entre 80 et 100 degrés, quoi. Mais le reste du mouvement, tu n'auras pas progressé. Donc, fais plutôt des séries normales, tout simplement pour avoir le même niveau de force de chaque côté, être équilibré et pas te blesser.
Ok, alors après, bon, ça c'était Pranews qui posait la question sur l'entraînement strict, j'en avais déjà un petit...
Donc on peut en parler un peu là. Donc, l'entraînement strict, alors pourquoi? En fait, la base du raisonnement, ça provient en fait de Frank B, donc qui est dans la team aussi, donc j'avais fait une super interview, donc qui est à relire indéfiniment, qui est vraiment super, donc rubrique interview du site et vous descendez Frank B. Et donc en fait, qui disait à l'époque que être trop strict en fait, ça amenait pas à progression. Il n'y avait pas assez de liberté dans le mouvement pour progresser sur le long terme. Et c'est vrai que c'est un truc que je me suis rendu compte avec le temps, c'est qu'à vouloir être trop strict, t'es toujours en train de chercher la petite bête, à dire est-ce que là je peux faire un peu mieux, est-ce que là je peux tendre un peu, est-ce que je peux tendre un peu plus, est-ce que là j'ai bien senti les pecs et compagnie. Donc c'est ce qu'on appelle, au final, on en revient à dire. Donc ça c'est. C'est l'entraînement des mecs qui disent qu'ils s'entraînent à la sensation, donc qui ne progressent pas, ou qui progressent parce qu'ils sont dopés. Tout simplement, ça ne marche pas. De toujours vouloir être strict, de vouloir vraiment contracter, de vouloir bien faire le mouvement et compagnie, à long terme ça marche pas parce que ça monte pas. Et donc, c'est pour ça que je me suis inspiré de ce que disait Frank B, et ce qu'il disait, donc ce qui est très vrai, c'est qu'il faut un peu de liberté dans le mouvement. Tu peux, en fait, il y a tricher et tricher. Donc, par exemple, on voit sur la vidéo de mon cœur incliné, je ne tends pas complètement à fond, je donne un peu d'élan et je ne monte pas complètement à fond. Et le mouvement ressemble encore au mouvement. En fait, tant que c'est pas de la danse, ça peut aller. Par exemple, si je fais du curl debout et puis que je me tends dans tous les sens pour monter la barre, bon, là, non. Là, c'est n'importe quoi. Ou si je triche, par exemple, en réduisant énormément l'amplitude, pas je fais des tractions, puis à la fin, j'ai 5 degrés d'amplitude, bon bah ça sert à rien. Et par contre, si je triche en donnant un peu d'élan avec les cuisses, et en plus ça on l'avait remarqué, toi aussi Fabrice, donc au curl, donc je donne l'exemple, en fait, en trichant un peu pour progresser, entre guillemets, parce que c'était pas une vraie progression sur les tests stricts, en trichant un peu et en allant au-delà de ce qu'on pourrait faire strictement, quand on repasse sur du strict, en ayant suffisamment progressé donc dans le cycle et dans son nombre de répétitions, et bien quand on revient sur du strict, on a gagné en force aussi. On a gagné en force, ce qui nous permet, donc comme je disais tout à l'heure, tu redémarres un nouveau cycle en étant strict, en étant plus fort, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ouais, moi je suis pour la triche, mais de la triche intelligente, comme par exemple le rest pose, qui est pour moi une triche intelligente, c'est-à-dire que je trouve un endroit du mouvement où il y a moins de tension, où je peux récupérer, et ça il y en a dans tous les mouvements, quoi. Par exemple je fais extension nuque à un bras, donc je reste strict, la pose c'est en haut, bras tendu, je décale un peu le bras, j'attends un petit peu, ça crame plus trop, et après je peux faire une ou deux reps, ou voire plus. Et donc ça c'est de la triche qui est utile quoi, pour progresser au fil du temps. Mais être strict, non. Je vois personne qui est strict et qui progresse indéfiniment quoi. Ou qui progresse tout court quoi. Être trop strict, c'est des mecs que vous voyez en salle qui font 10 à 80 au coucher, ou même 10 à 100, ils sont chargés comme des mulets, puis ils sont toujours en train de contracter, aller tout doucement, et puis s'ils font une rep de moins que la semaine suivante, c'est pas grave, parce qu'ils ont une bonne sensation et compagnie. Une bonne sensation, c'est pas un repère. Le repère de progression, c'est là, j'ai fait une rep de plus, là j'ai mis 2 kilos de plus, sur un mois, j'ai gagné 2 kilos là j'ai un repère de progression. Mais dire, j'ai mieux senti mes pecs là, et ceci, c'est abstrait, quoi, c'est un truc qui est pas quantifiable, c'est bidon, quoi.
C'est bidon, ouais, alors, ben, en même temps, le risque de la triche, c'est que si la triche elle est mal gérée, peut-être on progresse, mais si on progresse que dans la tricherie,
c'est pour ça que je dis faut pas trop tricher, tu vois, sur ma vidéo, donc au cœur la 27.5, pour moi je trichais suffisamment, je pouvais pas faire plus. J'avais assez triché, donc ouais, c'est sûr qu'il y a l'entre-deux, entre beaucoup tricher et tricher raisonnablement, et que ça ressemble, et que ça continue à solliciter le bon muscle. Si j'ai des élévations latérales et que je saute, comme on avait vu, bon, je veux pas le citer, hein. On va lui faire de plus, mais bon. On a vu des élévations latérales sur le forum. Un mec qui disait qu'il en faisait à 40 kilos. Non, mais c'était n'importe quoi. C'était un truc. Une honte. Une honte, mais j'aurais jamais mis, jamais j'aurais fait ça de ma vie, quoi. Impossible. Donc, ouais, il a triché, mais je vais pas sauter aux élévations latérales. Je vais peut-être plier un petit peu les bras, un peu plus que d'habitude, pour monter en répétition, peut-être donner légèrement d'élan avec le buste en fin de série, et voilà, ça s'arrête là. Et quand j'ai suffisamment progressé comme ça, bah, je repasse sur du street, bras pratiquement tendus, pas d'élan, voilà. Mais pas une triche, une triche de sagouin qui ressemble à rien, et qui travaille rien du tout, quoi. Travaille juste la tête, juste l'ego.
Ok. Bon, après, juste pour préciser, il y a des exos que il faut.
Ouais, pas tu peux pas tricher, par exemple. Par exemple, on va pas tricher au squat. Le squat, la triche du squat, c'est le rest pose. C'est j'attends en haut, en étant gainé, voilà. C'est pas une triche où je me tortille pour monter.
Ouais, non. En fait, il peut y avoir une triche où tu essayes de rebondir un petit peu en bas, mais celle-là, c'est vraiment trop risqué pour les genoux.
Trop risqué.
Non. En fait, au squat, là où il peut y avoir une triche, c'est genre où tu maintiens le gainage, mais tu vas pencher plus le dos en avant que tu ne devrais. Donc le mouvement, il va ressembler un peu plus à un good morning. Ça voilà. Peut être un peu une et forme pour, de triche.
Mais... Pour chaque exercice, donc il y a une façon de tricher. Il y a un truc à trouver qui permet de prolonger votre progression pour ensuite être plus fort sur le strict et ainsi de suite, quoi. Recommencer le cycle à l'infini. Mais c'est vrai qu'il y a des exercices, par exemple, sous les terres, la triche, c'est pas de me foutre en tortue, quoi.
Ouais.
Parce que là, c'est sûr que ça finit en hernie discale, quoi. Donc, pour chaque exercice, faut trouver l'endroit où comment faciliter, entre guillemets, la suite de l'exercice. Donc, par exemple, moi, au soulevé de terre, je donne ma technique, c'est que j'attends un peu plus en bas. Je réouvre mes mains, je prends deux respirations, hop, je m'y remets. Au lieu d'enchaîner plus rapidement, comme ça, je fais plus de répétitions que prévu avec ce que j'aurais pu faire. Et au final, quand je réenchaîne mes répétitions, plus tard, dans un nouveau cycle, quoi, bah, j'ai gagné. Et ainsi de suite. Donc voilà ce que je pense du trop strict.
Ouais, oui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans chaque exercice avec barre et halter, par les phénomènes de levier, il y a des points dans l'exercice où la charge elle est beaucoup plus élevée que dans d'autres. Par exemple, quand on fait du curl barre debout, et ben là, c'est quand le bras il est parallèle au sol, là, à 90 degrés, que le biceps il supporte la charge la plus énorme. Et en fait, en début de mouvement et en fin de mouvement, il n'y a pas beaucoup de tension. Et donc du coup, quand on est super strict, on va systématiquement bloquer là sur ce 90 degrés. Et puis finalement, si on donne une toute petite impulsion et qu'on passe ce point bloquant de 90 degrés, ben on va pouvoir faire beaucoup plus de reps. Et c'est là qu'on sent que la triche, elle est un petit peu utile, entre guillemets. Voilà, c'est pour la parenthèse. Alors, je passe aux questions de Quentin, donc qui te suit sous Twitter. Et apparemment, tu as fait référence à un exo magique pour les triceps, et il voudrait savoir lequel c'était. Donc, je suppose que ça devait être des extensions nuques à un bras.
Non, c'est un truc...
T'aimes pas ?
Ah non, c'est un nouveau. C'est pas un nouveau, c'est un truc que j'avais déjà vu, en fait, et puis j'avais pas vraiment fait... Mais bon, pour l'instant, je veux pas trop en parler exactement parce que je vais faire un article sur le sujet. Donc, il y a certains de mes élèves qui en font déjà en plus. Mais c'est rien de, c'est juste un truc, une adaptation en fait d'un exercice qu'on fait déjà et qui marche du tonnerre quoi. Quand je le fais, je sens que ça gonfle quoi. Que vous verrez dans les prochaines photos que j'ai encore pris du triceps, et c'est vraiment grâce à ça quoi. Donc, pour l'instant, incognito. J'attends que je fasse l'article, je fais monter la pression.
Voilà, alors là, tu vois, on va avoir un commentaire qui dit que tu veux plus partager. Voilà.
Non, mais il faut que j'ai des idées pour les articles, parce que après, chaque semaine, comme il y a un combat qui écrit, pratiquement, il faut que j'ai des idées. Donc celui-là, je le garde, mais en gros, c'est rien de vraiment... Quand vous allez le voir, vous allez dire, ah, putain, j'aurais pu le faire, que j'ai déjà fait, mais sans y penser, sans l'introduire là-dedans... Sans penser à le faire pour ça quoi. Et en fait c'est tout simple et ça marche très fort quoi. À condition encore une fois d'avoir les coudes solides hein, parce que pour les triceps.
Voilà, c'est le gros problème des triceps, c'est que tous les exos efficaces ils placent le coude dans une position de fragilité. Oui, donc Quentin il avait une autre question sur le fait de changer d'exercice quand on était grillé sur un exercice donné, parce que c'était une expression que tu avais employée où tu avais dit voilà, à un moment donné, exola, je suis grillé, donc je change. Et donc qu'est-ce que t'en entendais par là et comment tu savais qu'il était temps de changer?
Bah donc en fait je sens au bout d'un moment que je perds les sensations d'un exercice et que donc j'attends en gros Si c'est que sur une séance, en fait, je continue pour voir si ça se poursuit. Deux séances. À la rigueur, je sors une troisième séance et je sens qu'en fait, il y a plus la sensation. Je sens qu'il y a plus, comme je crois que je sais plus si Michael Gundil en parle dans ses livres, mais en gros, le schéma moteur est grillé, quoi. J'ai plus, comme si mon cerveau n'envoyait plus l'ordre, n'envoyait plus la force nécessaire pour que je sois explosif, pour que j'envoie la force, quoi. Donc je sens que c'est le moment de changer d'exercice, et quand je change d'exercice, en fait, comme je repars sur une période facile, en même temps, ça me régénère, ça me réadapte sur le nouvel exercice, et quand, et après, ça me permet en même temps de récupérer plus nerveusement, et après, ça va mieux, quoi. Et donc après, cet exercice-là, je peux le reprendre que, quand j'ai fini ma progression sur l'autre, c'est que je suis grillé, quoi. Mais, ça répond à la question, Fabrice?
Ben, écoute, j'espère.
Non, mais pour toi, c'est clair ou?
Oui, non, ben, pour moi, c'était clair, j'avais pas besoin de la question.
Ah, Fabrice.
Alors, Quentin, il avait aussi une autre question, mais c'était sur la diététique, donc on la posera à la fin. Donc, je passe à la question d'Adrien. Donc, lui, il voulait savoir si le gainage et l'exercice du vacuum, donc c'est vacuum, d'ailleurs, je sais même plus comment ça se prononce, où on rentre le ventre, donc pour muscler le transverse, si c'était des exercices indispensables pour avoir le ventre plat, parce qu'il dit qu'il a essayé et il a pas trop vu de différence.
Ben, ouais, c'est pratiquement indispensable, quoi. Si tu veux pas avoir un beat qui dépasse, parce que faire du crunch, comme le font la plupart des gens en poussant sur le ventre pour contracter et compagnie, alors c'est pas. Voilà, la nuance, c'est pas obligatoire, c'est quand tu fais tes crunchs, tes enroulements de bassin et compagnie, t'es déjà dans cette optique de rentrer le ventre, de pas pousser dessus. Si t'es dans cette optique, je rentre le ventre, je contracte, mais en rentrant quand même, là, c'est pas obligatoire. Mais si t'as pas encore cette sensation de savoir serrer ton ventre, de le rentrer, d'aspirer, je te dirais que là, c'est obligatoire pour un ventre plat, parce qu'à long terme, si tu prends donc des abdos du grand droit, ton ventre va pousser vers l'avant et irrémédiablement ça va te faire un petit bidon. Donc si t'as pas encore la sensation au crunch, au roulement de bassin, d'arriver à serrer le ventre et d'aspirer, continue le gainage et le vacuum jusqu'à temps que cette sensation vienne. Et ensuite, si t'arrives à reproduire ça sur des exercices donc normaux, tu pourras arrêter. Mais sinon, il faut trouver cette sensation.
Bon, de toute façon, s'il écoute bien les podcasts de Christophe Cario, le gainage, même pour le ventre plat ou pas plat, c'est bon pour le dos et d'autres choses. Donc
voilà, oui.
Ok, alors après, il y a Adrien, ah bah, c'est toujours le même, qui pose une autre question.
Voilà, Adrien.
Soit j'ai loupé mon copier-coller, soit c'est toujours le même. Adrien, donc, il dit qu'il va sécher au printemps, donc son objectif, c'est de descendre à un taux de masse grasse de 10 à 12%. Parce qu'il veut pouvoir faire le kéké sur les plages, donc ça c'est ma transcription. Et par contre, ce qu'il a peur, c'est qu'en maintenant ce taux de masse grasse cet été, bah, il se dit, est-ce que je pourrais quand même progresser en muscle ou est-ce que je vais devoir me contenter de maintenir mon niveau?
Non mais Adrien, c'est sûr que si tu sèches un peu à 10-12%, après une fois que en fait pendant le régime tu vas avoir du mal à progresser, mais une fois le régime de maintien, ou si après tu remanges un peu plus pour regrossir en restant un peu sec, normalement, tu peux redémarrer ta progression tout de suite, en fait. Il n'y a pas de, t'as pas besoin d'attendre. Il y a pas de, en fait, tant que t'es pas en restriction calorique, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas reprogresser. Tout simplement.
Ouais, en fait, c'est si vraiment tu descendais genre à 8%, là, les 8%, c'est impossible à maintenir sans être en restriction calorique. Donc là, par contre, c'est très difficile de progresser si t'es très très sec, quoi. Mais bon, à 10-12...
Ouais, je pense que ça se tient, et puis même s'il était à 8, après s'il remange un petit peu, il va pas repasser tout de suite à 12, il va refaire petit à petit, donc après, il n'y a pas de soucis, quoi. Je pense pas qu'il y ait de soucis pour progresser ensuite.
Oui, mais enfin, la question, c'était pas de pas pouvoir progresser ensuite ou non, c'était pendant.
C'était
conserver ses abdos, donc pas se regoinfrer, et en même temps progresser.
Ouais, mais si, ça oui, il peut faire.
Ok, donc après, on aborde les questions plus orientées préparation physique, donc forcément, il y en a moins.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que les filles ne les filles ne vous demandent pas si vous êtes bon en préparation physique, elles regardent plutôt vos biceps. Ouais.
Pas mal, enfin oui.
Ah, c'est ce que pensent les gens, mais en fait les filles regardent même pas vos biceps, elles regardent juste le porte-monnaie.
Oh.
Vous le saurez quand vous aurez des gros biceps comme moi, que ça n'a pas marché. La parenthèse humoristique de...
Oh putain, le moment culte.
Alors, il y a Garfield. Garfield qui me demande si tu peux nous parler un peu de ton travail de préparation physique chez les météores et si tu ça t'a donné d'autres envies en termes de préparation physique.
En fait, chez les météores, là, il y avait plus... En fait, là, la préparation physique s'est arrêtée... Donc là, en janvier, en fait, il n'y avait pas vraiment... Si je dois tirer un bilan du truc, c'est qu'en fait, pour l'instant, il y a en France, donc du côté du foot américain, il n'y a pas vraiment de place pour la préparation physique. Il n'y a pas de... C'est pas comme aux US, au Canada. Hier, je parlais justement avec un Canadien qui est arrivé au club, qu'ils ont fait venir justement pour la saison, avec un coach canadien. Donc un mec qui a failli jouer en NFL, donc une bête, quoi. Et donc, on discutait, et c'est vrai que en France, tu vois, ce que j'ai remarqué dans le club, là, ou même dans les autres clubs, quoi, c'est toujours pareil, c'est que quand les mecs, par exemple, ils veulent pas courir, tu vois, les gros, comme au foot américain, par exemple, il faut des gros, les mecs, ils ont pas envie de courir. Ils ont pas envie de faire de gainage, ils préfèrent rester au chaud et venir que pour jouer, etc. Donc en fait, il y a tout ce que j'avais essayé de mettre en place, tu vois, de mettre une progression sur le gainage, sur l'entraînement de la vitesse et compagnie, mais ne s'est fait qu'avec une dizaine, voire une quinzaine de joueurs maximum, sur 60 en gros. Et donc, là c'est pour ça, et là comme la saison a commencé, il n'y a même plus le temps de faire de la préparation physique, et comme en plus la plupart des joueurs n'étaient pas très motivés, on s'est mis d'accord pour que là, pour l'instant, on mette entre parenthèses la préparation physique. Ceux que ça intéresse viennent me voir en dehors, viennent s'entraîner avec moi, donc à la salle de muscu, ou avec qui je fais des programmes en plus par via mon site web de coaching. Mais sinon, les autres, il faut dire qu'en fait, en France, le football américain, c'est vraiment très très amateur. Quoi. C'est, si on prend un exemple, on avait fait des tests un peu NFL, et il y avait en gros 80% des joueurs qui n'ont jamais fait de musculation, et t'en as 90%, donc encore 10% de plus qui font un peu de muscu, donc 90% de l'équipe qui ne passe même pas une assaut au coucher, quoi. Donc on est loin de du niveau qu'on peut imaginer, parce que je vois pas mal de mecs qui ont peur d'aller jouer au foot américain et compagnie en France, alors que le niveau est largement accessible. C'est pas vraiment pas comme au Canada et
Ouais, parce qu'aux USA, il y a quasiment des minima, je crois, de force pour jouer dans certaines équipes, c'est ça?
Voilà, bah, les...
Faire 18 à 100 au coucher ou une histoire comme ça?
Je sais pas, c'est des minima, mais on voit, par exemple, moi je suis les vidéos de préparation physique, de comme ça, on voit, par exemple, les tests NFL combine, les mecs, ils font tous 25, 30 à 100, puis ça y va, quand tu vois que 100, c'est rien. Alors que nous, en France, c'est pas... Donc là, le bilan, c'est que pour l'instant, il n'y a pas la place en France, donc là, moi, je vais reprendre, après leur saison, en 2, 3, 4 mois... préparer les mecs physiquement, parce que là il y aura plus de masse, là il y aura plus de pression, il y aura plus besoin d'apprendre les jeux et compagnie avec ceux que ça intéresse. Mais là ouais, il y avait pas la place pour les mecs ont pas envie de courir, ont pas envie de faire du gainage, la plupart ils sont pas dans l'optique de progresser, de soit c'est ce que j'ai remarqué, c'est pour ça que le coaching marche aussi. C'est si t'es pas derrière les si t'es pas derrière la plupart des gens, ils ne font rien. Donc là il aurait fallu que j'aille chercher les gros dans les vestiaires, que je leur rentre dedans, je leur dis sur le terrain les gars, et que tous les coachs viennent pour qu'on gueule, tu vois. C'est un peu, surtout quand il fait froid dehors, je sais pas, Fabrice, toi, je sais pas si tu cours encore, mais tu dois bien voir que quand il fait froid, il y a beaucoup moins de monde dehors qui court.
C'est sûr.
Donc là, bah là, c'est pareil, quoi. Là, quand là, les mecs sont pas motivés, tu vois, il y avait un groupe de 10, 15, 20 personnes, voilà, qui étaient vraiment motivés, qui étaient là à chaque fois et tout, et puis beaucoup qui venaient se donner vestiaire après la préparation physique parce qu'ils en avaient rien à foutre, quoi. Juste être gros, ça suffisait. Donc, j'ai pas pu mettre en place tout ce que je voulais. C'est des joueurs qui ont progressé et compagnie, mais après, c'était dur de mixer sur une vraie progression logique si t'en as plein qui viennent pas, qui s'incrustent au dernier moment, et puis qui peuvent pas faire un exercice parce qu'ils ont pas fait la préparation avant, ou s'ils sont arrivés après l'échauffement et qu'ils ont même pas échauffé, ils savent même pas comment s'échauffer. Donc voilà, quoi. Après, est-ce que j'ai d'autres projets de préparation physique? Actuellement, non. J'attends juin pour... reprendre ça en fait, pour aller m'amuser et puis avec ceux qui veulent, sans pression, juste pour s'amuser. Mais le domaine de la préparation physique était assez bouché aussi, hein. C'est comme là, dernièrement, on parlait du coaching sur le forum, il y avait un topic dans le Big Bar des Sports, donc on voit que si on est inscrit au forum, il y a toujours qui veulent se lancer comme coach, et puis faut bien le dire, hein, il n'y a pas beaucoup de monde qui est prêt à payer 50-60 euros de l'heure pour du coaching. Alors, et ben la préparation physique, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à payer pour un préparateur physique quand trois quarts des joueurs ne sont pas motivés à progresser.
Donc, voilà. Oui, pour sur ce sujet-là, il faut revoir l'interview de Broussal. Hein. Il avait dit, il avait parlé un petit peu du milieu et comment faire pour faire sa place, et c'était pas facile. Hein.
Donc, voilà la préparation physique pour l'instant où j'en suis.
Ok. Alors après, donc il y a Cédric qui se demande si dans une optique de pur bodybuilding, enfin donc pure prise de muscle, est-ce qu'il faut faire du cardio? Est-ce que ça va améliorer la récupération, ou est-ce qu'à l'inverse, même ne pas faire de cardio, est-ce que ça peut nuire un jour à la prise de muscle?
Non, mais en fait comme moi je suis, comme on vient d'en parler, je préconise plutôt des séries mi-longues. En fait, je ressens pas le besoin de faire du cardio. On l'a vu. Je sais un gros passé derrière de cardio quand j'étais adolescent où je courais beaucoup, donc peut-être que ça joue aussi, mais moi je crois pas que ça limite, parce que quand tu fais des séries de 20 par exemple après sa cuisse, t'es tout essoufflé, ça travaille le cardio aussi. Quand tu fais des séries de 10-12 au squat, et que tu enchaînes suffisamment tes répétitions, ça travaille ton cardio aussi. Après, alors est-ce que le travail aérobie va aider à te faire prendre du muscle? Je te dirais non, ça va pas aider. Et d'ailleurs là, pareil sur le sujet. Qui revient souvent sur la table, beaucoup croient que le cardio est obligatoire pour sécher, donc je vais préparer un article aussi là-dessus, parce que j'en ai marre d'entendre n'importe quoi sur le sujet. Donc, non, le cardio, c'est pas obligatoire. Après, si on a un objectif autre que la prise de muscle, qu'on veut être un peu plus en forme, avoir un peu plus de souffle, parce qu'on prépare des 5 km, des 10 km, on vient des performances, ou qu'il y a complètement autre chose, ok. Mais non, dans une optique prise de muscle seulement, et qu'on fait déjà des séries comme je préconise, mi-longues voire longues, non, ça ne sert à rien.
Ouais, si, ça sert quand même un peu à être en bonne santé.
Je sais pas, si tu fais des séries de 20 à la presse.
Voilà. Ouais, non, mais moi, ça, je suis pas convaincu de ça. Parce que toi, c'est ton métier de faire ça. Mais par exemple, moi qui suis assis sur une chaise toute la journée, et peut-être comme beaucoup d'autres qui écoutent, et c'est pas de faire 4 séries de squats dans la semaine. Donc allez, on va être gentil. Donc mettons 4 séries de squats de 15 répétitions. Si on dit que ça prend 3 minutes par série, donc ça fait 4 séries, donc ça fait 12 minutes. C'est pas en faisant 12 minutes de pseudo-cardio dans la semaine que tu vas compenser 60 heures assis dans la semaine. Hein.
Ouais, ça, mais là, tu parles de squats, hein. Mais t'as des exercices, t'as le rowing, t'as traction, t'as le curl, t'as plein d'autres exercices.
Ah non, mais non, ça a pas, je pense que ça arrête. Wow.
Moi, après, je suis assis aussi, hein. Je suis assis toute la journée et j'ai pas l'impression de...
Enfin, moi, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'avais arrêté de courir. J'en avais parlé sur le forum. Donc, j'avais arrêté la course à pied alors que, à un moment donné, je courais beaucoup quand j'étais jeune. Et à 16 ans, j'avais fait un semi-marathon. Et donc, après, j'ai arrêté de courir pour diverses raisons. Et ben, même en faisant de la muscu, etc. Après, quand je suis revenu pour aller courir, et ben, courir 5 km, c'était dur, hein.
Mais tu n'as pas besoin de courir 5 km.
Ouais, mais bon, ça montre bien qu'il y a pas le transfert, il sait pas vraiment, quoi.
C'est ouais, mais là, ouais, mais là, c'est un transfert vers 5 bornes. Si c'est un transfert pour monter des escaliers, et que tu fais des séries de 10, 15 à 100 au squat, tu les montes tranquille, tes escaliers.
Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais bon.
Donc ouais, bah oui, si tu veux courir 5 bornes, c'est sûr que ça va pas, mais après, je sais pas, moi, tous les exercices, comme c'est un peu, comme moi, je sais pas, j'ai pas l'impression de manquer de souffle, ou... Enfin, en même temps, je suis jeune aussi, donc peut-être que ça joue là-dessus. Mais j'ai pas l'impression.
Bon, donc Rudy a un point de vue différent du mien. En tout cas, donc pour la prise de muscle, ça changera rien, hein, que tu cours ou que tu cours pas. Par contre, moi, je pense que juste faire de la muscu, c'est pas suffisant pour avoir un système cardiovasculaire correct.
Quoi. Parce que ça ressemble à du fractionné, la muscu, de toute façon. Donc, est-ce qu'il faut faire pour progresser en cardio?
Ouais, je suis pas.
C'est le hors point.
Ok, alors après Tonio 69 dans le même, enfin il avait une question un peu dans le même esprit, mais honteuse. Il demande si entraîner les jambes est obligatoire et si jamais on les entraîne pas, est-ce qu'à un moment donné on va être comme disait Arthur Jones, c'est bloqué pour prendre du haut.
Bah déjà c'est simple, moi un mec qui veut pas faire les fuses, je le prends pas en coaching. Là d'avance je le dis parce que les mecs ils m'écrivent, je dis, et c'est vrai que t'as 15% qui fait pas les cuisses, je dis bon t'es prêt à faire les cuisses, et s'il me dit non, je dis bon bah je te coache pas. Alors c'est pas parce que ça, faire les cuisses ou pas, ça va t'aider à progresser ou quoi, mais c'est juste, comme on lui a répondu, je crois en plus sur le forum, c'est juste une question d'esthétique, de tout travailler quoi, c'est, si tu travailles pas les cuisses, tu perds, c'est ce qui est le plus, justement, là, t'as besoin de faire du cardio, quoi. Si tu fais pas les cuisses, déjà, là, t'es obligé de faire du cardio, au moins pour compenser, pour avoir un peu de condition physique, quoi. Non, faire les cuisses, pour moi, c'est un truc qui est obligatoire, non pas pour progresser sur le haut, parce qu'on sait que c'est faux. C'est que si tu fais que les bras, bah, tu auras plus de facilité à avoir des bras que si tu fais tout le corps.
Ah ouais, tu progresses même plus vite, ça se trouve, du haut du corps quand tu fais pas les cuisses.
Voilà. Mais après, non, faut faire les... Après, tu peux pas... Après, tu contribues à l'image des mecs qui ont que des bras et pas de canne, quoi, donc... J'espère que tu vas faire les cuisses, Tonio.
Bah, en même temps, Rudy, comme tu poses jamais de photos de tes cuisses...
Vas-y, mais il y en a une, à chaque fois on me dit ça, mais j'en ai mis une il y a 2-3 ans sur ma fiche membre. À chaque fois on me dit ça, et il y a une photo à la presse avec 300 plus un élastique monster de 100 kilos, où j'en fais 20. J'ai fait des trucs de force athlétique aussi, où j'ai fait 190 au squat. Donc je sais pas ce qu'il faut de plus en fait, je mets pas photo de suite parce que je vois les gens, en fait, ça le problème c'est que les gens demandent, sur le forum ou sur les trucs, ils demandent, mais c'est 10-12 personnes qui demandent maximum, sur 12 000 personnes sur le site. C'est ça qu'il faut relativiser le truc, c'est que moi je mets une photo biceps, je vois qu'elle fait tant de vues, je vois qu'elle plaît tant, je vois que les gens, ça fait parler, je vois que ça fait ci, je vois que ça fait ça, je vois que ça en parle, je mets une photo de cuisse, c'est ça de toute façon, je vois très bien ce qui plaît et ce qui plaît pas, donc c'est pas parce que deux mecs ou trois mecs gueulent parce qu'il n'y a pas de photo de cuisse, alors que j'en ai déjà mis une, que je mette une photo de cuisse parce que c'est un truc qui amène à rien en fait, qui amène à rien et qui en plus, une photo de cuisse, les mecs... Je connais, avec tous les critiqueurs qu'il y a, ça va déjà dire, ouais, mais, tu te rends compte, pour 10 ans, il y a que ça de cuisse, ou comme quand j'ai mis 10 x 200 au soulevé de terre, on m'a dit, ouais, mais 10 ans d'entraînement pour 10 x 200? Bon, bah, tu vois, c'est des trucs, ça va être juste un prétexte pour que je m'énerve et pour que ça me fasse chier, quoi. Donc, je laisse la photo de cuisse qu'il y a sur l'affiche membre. On voit, je faisais 71 de cuisse là-dessus à chaud. Il y a 20 x 300. Et puis, quand je fais une super perf au front squat, donc avec mon truc, bah je mettrai la super perf et puis voilà. Mais bon, évidemment que je fais les cuisses. Sur mon Twitter, tous les vendredis, je raconte ma séance. Je raconte ma séance, donc... Non, Fabrice, t'es pas d'accord.
Parce bah, attends.
Que c'est les cuisses qui font le maximum de vues sur ta fiche. C'est ça dingue. Que tu veux dire. Bah non, mais c'est vrai, mais... Parce que c'est pareil, on nous demande des fois on nous demande des trucs, des articles et tout, mais... Je sais pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a que 2-3 mecs qui demandent sur 12 000, je peux pas prendre le temps d'écrire un article pour 2-3 personnes que ça intéresse. Je vais prendre le temps de faire un article sur quelque chose qui plaît et qui, moi, les gens seront contents de l'article, il y aura un grand nombre de personnes contentes. Je peux pas faire un article pour 2-3 personnes ou me faire chier à faire une belle photo de cuisse. Donc il faut que je trouve où la faire... Faut toujours comment la prendre, parce que pareil, les cuisses, si tu prends un peu d'en bas, un peu d'en haut, ça ressemble plus à rien. Donc, voilà quoi, je préfère satisfaire le plus grand nombre que quelques personnes, quoi. Tout simplement. Non, Fabrice ?
Oui, non, j'entends bien, mais bon, en même temps, c'est contradictoire avec ton exigence que tes élèves doivent travailler les cuisses. Mais bon.
Bon, faut que je fasse une vidéo de mon entraînement de cuisses. C'est ça que vous voulez. Alors si vous voulez une vidéo d'entraînement de mes cuisses, je vous propose de dire plus 1 en bas du podcast.
Ok. Donc Tonio 69 pour donc la question, donc ta question, donc non, si tu veux ne pas entraîner les cuisses, tu peux, et ça se trouve tu progresseras même plus vite du haut. Mais dans ce cas-là, bah, faut que tu fasses un peu de cardio, parce que pour la peine, ton entraînement de muscu développera pas du tout ta condition physique. Et puis, en plus, tu auras la honte et l'opprobre de tous les membres du forum qui sauront que tu n'entraînes pas les cuisses. Alors après, Tonio, il demande aussi qu'est-ce que tu penses des gants, parce qu'on te voit jamais sur les vidéos avec des gants.
Non, bah j'ai de la corde, en fait, tout simplement. J'aime pas les gants, moi. C'est pour ça que j'ai écrit donc c'est moi qui ai écrit les fiches sur la boutique. Et donc, c'est ce que j'ai marqué, c'est, je crois que j'ai mis c'est pour avoir les mains douces ou une saloperie, quoi. Et donc, non, mais je suis pas pour les gants, quoi. C'est de la muscu, t'as un peu de corde, bah c'est rien, c'est normal, quoi. C'est normal. Donc, non, je suis pas pour les gants. Au pire, t'as les mains qui glissent, un peu de magnésie, et puis hop, quoi.
Ok. Alors maintenant, il y a quelques questions plus diététiques, mais donc il y en a très peu parce que je pense que les gens ils se réservent pour Julien. Donc il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que tu testes actuellement comme nouveau supplément, si tant
Bah
est que tu...
là, voilà, je teste rien, je prends toujours les mêmes en fait. Donc là, comme d'habitude, comme j'avais décrit sur le blog de mon site, donc là j'ai mon pot de whey, j'ai mon Carbonox, mes BCA, ma créatine, et là je suis toujours sur le hot boot en fait, j'ai toujours pas fini parce que j'avais un gros pot, j'avais un pot de 800 grammes. Donc le temps que je le finisse, en fait comme je prends, il y a toujours ma base, donc qui est donc ma whey, Carbonox, BCA et créa. Et à ça, je rajoute toujours un supplément. Et donc, tant que j'ai pas fini, bah, je continue là-dessus, quoi. Et quand je l'ai fini, bah, je testerai autre chose. Prendrai autre chose pour voir, quoi.
Ok, alors après il y a...
Ah, j'ai oublié, j'ai déjà dit postille aussi quand je suis pas en forme. J'ai toujours une boîte d'ouverte.
oui, donc tu utilises l'Adipokil qui est normalement prévu pour aider la sèche, toi tu
Voilà.
l'utilises en pré-workout, alors
Bah,
justement
voilà,
c'est la...
parce que j'aime pas, c'est. Ce qu'on entend, à chaque fois, on dit, ouais, ça, c'est un brûle-graisse, c'est un ceci, c'est un cela. Donc, déjà, pour perdre du gras, on sait que c'est le régime. Donc, et là, je pense pas que l'apport d'un brûle-graisse, d'un burner, soit quantifiable, sur un régime. Donc, un Adipokine, moi, c'est un truc qui me donne vraiment la pêche, qui me réveille, qui me fout la pêche, quoi. Je sens la différence tout de suite. J'en
Mais
prends,
donc
ça mousse.
tu disais que ça t'avait un peu aidé pour ta sèche en
Ouais,
fait.
bah, ça m'aidait parce que justement, j'étais pas fatigué. C'est ça le truc, c'est que normalement au régime t'es vraiment fatigué et tout, et là tu prenais ça t'ouvre les yeux, tu fais pas de ton régime. Bon par contre t'es rapide, hein, ça te tu sens pas le sueur, mais t'as l'impression de vouloir courir vite ou je sais pas comment dire, mais enfin bon c'est le supplément. Là à chaque fois qu'un mec qui me dit ouais je me sens fatigué, je dis bah prends un Adipokil, hein, ça va te réveiller, hein. Puis ça toujours ça n'a jamais déçu personne quoi. Même à la salle là quand j'en prends quelques-uns. Tout le monde est content, quoi. C'est vrai que tu sens que t'es rapide, quoi. Et que t'es réveillé.
Et c'est quoi donc la différence entre avec juste de la caféine en fait finalement?
Mais ça, c'est une bonne
C'est
question
la
parce que.
question, hein, c'est la question.
Ouais, bah, c'est la question, mais en fait, le problème de maintenant de tous les burners, de toutes les formules de boosters de Eno et compagnie, c'est que les fabricants ne veulent plus donner la composition. En fait, combien il y a de milligrammes de chaque truc. Ils ne veulent plus. Donc, par exemple, toi, je prends le truc de l'Adipokil, là, il y a marqué Adipokil Super Matrix, 1822 mg. Donc là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, tu as de l'HCA, donc il y a une sorte de coupe-faim, tu as de la tyrosine, donc normalement qui booste production d'adrénaline et de noradrénaline, tu as extrait de thé vert, tu as de la caféine, alors après, tu as d'autres trucs, tu as de la yohimbine aussi. Donc je sais plus s'il y en a dans cette version parce que Yoimbine, faut que tu regardes Fabrice sur le truc parce que la Yoimbine normalement il l'avait enlevé parce que ça faisait concurrence aux pharmacies qui en vendaient déjà. Donc il y a de l'évothiamine, il y a de la cinéphrine, l'ugulstérone, il y a du chrome aussi. Donc et chaque ingrédient en fait tu sais pas combien il y en a. Tu sais pas combien il y en a parce qu'ils ont peur en fait. Chaque marque maintenant a peur d'être copiée par une autre qui ferait la même chose. Donc c'est dur de dire quel ingrédient fait plus. Après, si je vois la composition là, je dirais que normalement la L-tyrosine, ça booste pas mal. Surtout associé avec de la cinéphrine et puis de la caféine, quoi. Après le reste, HCA c'est un coupe-faim, c'est un truc pour le régime. L'extrait de thé vert c'est un truc de régime aussi. L'ugulstérone pareil. Donc voilà ce que. Et je sens mieux l'adipokil que la caféine, tout simple. Donc ça doit forcément venir d'un des ingrédients ou d'un ou plusieurs ingrédients qu'il y a dans l'Adipokil.
Ou peut-être que tu as une accoutumance à la caféine parce que tu en bois par ailleurs.
Non, non, pas du tout en plus. Jamais de café, rien.
Bon.
Et c'est vrai que j'ai testé et tout. C'est vrai que même avec mon père, là, tu prenais un café, on l'avait acheté et tout. Et c'est vrai qu'Adipokil, c'est différent. Quoi. Tu sens que la caféine, tu sens un peu sur le cœur et tout. Là, tu sens pas du tout le cœur. Tu sens pas du tout, ça l'accélère. Par contre, d'un coup, tu vois, l'Adipokil, j'en avais pris trop. Au lieu d'en prendre, parce que normalement, j'en prends que deux, parce que je suis pas mal sensible à ces trucs-là. Et à un coup, j'avais une grosse séance de coucher, quoi, l'année dernière, et donc j'en ai pris quatre. Et là, c'était trop, quoi. Là, je sentais que je pouvais plus faire mon truc, quoi. Je pouvais plus m'entraîner, quoi. J'avais trop d'influx, quoi. C'est à l'époque où je mettais au dips et j'ai l'impression de trembler de l'intérieur mais sans trembler de l'extérieur quoi. Vraiment, l'impression d'avoir de la force mais il y avait trop quoi, trop de force.
C'est pas canalisable. Ça, voilà. Ça me le fait des fois.
Voilà, c'est ça, c'était pas, je pouvais pas l'utiliser quoi, donc c'était trop. Donc pour ça maintenant, ben, je dis de prendre 2, voire 3 gélules si vous sentez rien, mais pas plus quoi. Parce qu'à 4, moi qui fais 100 kilos, j'ai senti que j'allais exploser de l'intérieur quoi.
Ok, donc en pré-workout comme supplément, donc éventuellement soit la caféine, soit la dipokil, c'est ça ta préconisation?
Ouais, ouais, bah moi j'irai directement à dipokil quoi, pour pas être déçu. Ça fait tant qu'on n'est pas au régime, tant qu'on n'est pas en restriction calorique, ça va pas aider à faire maigrir quoi. Donc n'ayez pas peur de sécher si vous prenez la dipokil en prise de masse. Hein.
Ok, alors après, sûr, il avait aussi une question sur la cortisone, mais ça, je pense qu'il faudra voir avec Julien, il saura mieux répondre. Et puis, il y avait eu une autre question qui était sur, qui était plus liée à l'entraînement, c'était pour savoir si un renforcement des adducteurs pouvait favoriser une rotation interne de la jambe, c'est-à-dire de les pieds qui seraient moins en canard quand on marche. Donc ça, c'est une question qu'il faudra poser
à Christophe Thériault. Et il y avait une question de diète que t'as pas posée tout à l'heure? C'était celle-là?
Oui, non, c'est bon. Normalement, là, j'ai fait toutes les questions. Alors, au niveau de la vie du site, il y avait quelqu'un qui demandait quelles allaient être les thématiques des livres dont tu avais parlé.
La
bonne année, mais je sais pas si tu vas le dire.
Non, pour l'instant, je voulais garder ça confidentiel, donc ce sera pas... C'est des trucs que j'ai pas encore parlé sur le site, il y a des nouveaux... Donc, ce sera pas le livre. T'as les livres... Ce sera pas le livre qui récapitule ma super méthode, sinon, je peux plus travailler. Donc, ce sera pas là-dessus, mais ce sera sur des trucs en fait dont j'ai jamais parlé et qui nécessitent plus qu'un article, plus que 4-5 pages ou 6 pages sur Word, qui nécessitent au moins 30-40 pages. Donc, faut juste trouver le temps. Donc là, j'en ai commencé un, j'en suis à 7 ou 8 pages, je crois, mais encore faut-il que je relise, bien mettre en forme et compagnie. Et donc, ça, ils font tous entre 30, 40, 50 pages. Donc de sujets que il y a des trucs qui sont déjà dits et d'autres trucs en plus qui n'ont jamais été mis sur le site ou même que j'ai jamais lu ailleurs en fait. Donc comme d'habitude ça s'inscrit dans l'idée des articles que je fais en ce moment, des retours d'expérience grâce à mon coaching, grâce à toutes les personnes que j'ai coachées et à mon expérience aussi à mes 10 ans d'entraînement.
Ok, super. Bon, bah merci Rudy pour ton temps et d'avoir répondu à toutes ces questions. Et à bientôt pour un prochain podcast, alors. Salut. Okay,
à bientôt et n'oubliez pas de dire tout ça si vous voulez une séance de cuisses filmée. Salut.
Salut.